24 degrés, il fait à Tel Aviv. 24 degrés à Tel Aviv. Oui, nous avons fui la France.
Je recommence.
24 degrés, il fait à Tel Aviv. Oui, à Tel Aviv, nous avons fui la France. Ça devenait irrespirable. Pas seulement l'antisémitisme, évidemment, mais aussi cette cabale, ce harcèlement contre Monsieur Guémard et contre sa famille, tout ça parce que, par étourderie, il occupe un appartement au-dessus de ses moyens. Nous qui, depuis tant d'années, soutenons le DAL, le droit au logement, eh bien, nous avons fui ce pays vraiment nauséabond. On a préféré partir pour ici. Pourquoi ici? Parce qu'ici, la paix arrive. Fuis la guerre, vive la paix. Les deux camps sont fatigués, les esprits ont mûri. Give peace a chance. C'est ce que disent les manches à air. Les manches à air, c'est les experts, les connaisseurs, les intellectuels médiatiques et organiques qui indiquent le sens du vent. Et le vent est à la paix. 4582 morts en 4 ans, ça a coûté 4 années de haine, de régression, d'épuisement, et soudain, les charognards se changent en colombes, les fabricants de kamikazes sont en grève. Alors, pourquoi? Alors, comment? C'est ce qu'on va essayer de comprendre, même s'il semblerait que ça ne soit pas si facile. C'est ce que nous disent aussi les manches à air. En attendant qu'on découvre le pot aux roses et qu'on mette tout ça au clair avec le camarade Guive, aujourd'hui, nouvelle diffusion d'une histoire étonnante, celle de Ramón San Pedro. C'était en 1998, en Galice. L'histoire de Ramón San Pedro, depuis, a fait l'objet d'un film qui s'appelle Mar Adentro, La mer intérieure, un film d'Alejandro Amenábar, que vous pouvez voir. Il paraît que c'est un film magnifique, je ne l'ai pas vu personnellement. Voilà, mais cette histoire, eh bien, la voilà telle que nous l'avions racontée à l'époque, et telle qu'on nous l'avait racontée à l'époque en Galice. Auparavant, quel message sur le répondeur de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel. Je voulais juste profiter de l'antenne un petit peu pour donner un conseil à notre ami Guémard, le pauvre homme obligé de déménager. C'est quand même pas juste, mais je vais lui donner un petit conseil, à lui puis à Clara. Si on part du principe qu'ils ont déjà 8 mômes, ça leur fait 160 mètres carrés, 80 mètres carrés crafarin leur donne, ça fait 240, il reste 360. Eh bien, il leur reste jamais que 18 mômes à faire. Allez, au boulot les gars. Et puis tu vas réintégrer tes 600 mètres carrés. Payé par l'État, hein? C'était pas une bonne idée, ça? Allez, salut.
Bonjour, voilà, je m'appelle Thomas, j'ai 50 ans. En 2001, j'étais SDF. J'ai même été sans abri après. Puis j'ai eu la chance de trouver une chambre de bonne qui fait 8 mètres carrés au 7e étage, sans l'eau. Et en vertu de la loi de solidarité, de restructuration urbaine, on va me mettre dehors parce que, justement, j'ai pas l'eau courante. Et ma chambre fait moins de 9 mètres carrés. Voilà, excusez-moi pour mon émotion. Et si je combats toujours pour l'existence, c'est parce que je veux pas faire un orphelin de mon enfant. Excusez-moi. Au revoir, à bientôt.
Bonjour là-bas, c'est Hervé de Castres. Je viens d'écouter le journal de 10h sur France Inter. 600 millions de dollars d'arrangement pour Executive Life. Donc voilà, j'espère que Monsieur Chirac va personnellement remercier les Français par voie de presse ou par voie télévisuelle, et bien de mettre la main au porte-monnaie pour rembourser cette dette qui a été faite par les bandits de grand chemin en col blanc, ceux qui croient être plus intelligents que la classe moyenne. Voilà. Bonne journée. Ciao.
J'ai entendu l'émission hier sur l'Afrique. Et là, j'ai acheté un livre qui s'appelle, une revue Manière de voir. C'est sur la résistance africaine. Et là, j'ai lu un article sur Joseph Stiglitz, donc ancien vice-président de la Banque mondiale. Et donc, c'est vachement intéressant. Donc, c'est pour dire que ça continue. Et puis, voilà, quoi. L'émission, c'est très, 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 très bien fait. Mais le problème, c'est que ça continue, quoi. Voilà. Donc, je sais pas comment faire pour, moi, je pourrais dire pas pour militer, mais au moins faire quelque chose pour que ça s'arrête, quoi. Parce que l'Afrique, franchement, a besoin d'autre chose, quoi. Voilà. Et l'Afrique est dynamique. Voilà. Et je suis défendant africain. Voilà. Bon, ben, Daniel Mermet, bonne continuation. Et puis, bonjour à tous les auditeurs.
Le verre est plein. Le vase déborde. 20 mètres carrés par enfant, ce sont les normes du ministère pour l'attribution des logements aux fonctionnaires. 18 mètres carrés, c'est ce dont bénéficient les familles de deux enfants dans des résidences sociales de Sonacotra, c'est-à-dire de l'État. Deux poids, deux mesures. J'ai les moyens de payer, donc je vais choisir mon spécialiste, mon médecin. Je n'ai pas les moyens, je vais chez mon médecin qui m'enverra chez son spécialiste, bien sûr. 1 euro sera retenu sur chaque consultation. Et si je dois m'arrêter de travailler, je devrais retourner chez mon généraliste référent avec de nouveau un euro de retenue. Deux poids, deux mesures. J'ai les moyens de changer les lunettes, de faire soigner mes dents, j'irai de mieux en mieux. Je sors juste la tête hors de l'eau, c'est-à-dire je gagne un salaire pour à peine 20 heures par semaine, donc je ne touche plus la CMU, mais mon employeur ne cotise pas non plus pour une mutuelle. Je ne changerai pas de lunettes et je continuerai à avoir les dents abîmées. La Sécu nous enverra un relevé annuel de nos consultations, dépenses et remboursements, sans mentionner ni la part retenue sur notre salaire brut, ni la part retenue sur notre salaire net. L'État ne finançant qu'à peu près 2% maximum du budget de la Sécu. Bonjour la culpabilité. Deux poids, deux mesures. Oui, la liberté a un prix. La responsabilité des hommes politiques n'est-elle pas de taille dans un pays soi-disant démocratique, donc où le pouvoir vient du peuple? Dans un pays un des plus riches du monde au XXIe siècle. Ne réagissons pas avec abnégation, fatalisme, où chacun s'étiole face à des mesures touchant le cœur même de notre vie, sans que personne n'explique réellement les enjeux. Ne nous laissons pas envahir par une culpabilité, distillée méthodiquement depuis des ans, nous faisant croire qu'il n'y a pas d'autre possibilité, que nous ne sommes la cause de tous les maux, de tous les déficits. Ne soyons pas hypnotisés par les médias radio et télé. Lisons, renseignons-nous sur le contenu des textes et la réalité des situations des uns et des autres. Votons en masse pour sauver les droits acquis au prix même de leur vie par nos parents, nos grands-parents. Ne laissons pas les extrêmes prendre le dessus. On peut être modéré, réfléchi et dire non au projet de la Constitution européenne qui permet notamment la création d'établissements scolaires par les collectivités locales ainsi que le recrutement des intervenants. Bonjour pour la disparité. Et l'objectivité. Elle dissout aussi les petites communes et oblige leur regroupement. Une constitution n'a pas pour but d'être un ensemble de lois, mais de donner un cadre sauvegardant l'intégrité, la liberté, l'égalité et la fraternité. En étudiant certaines parties du projet de la future constitution, il apparaît évident que ce n'est plus le cas. Nous n'avons pas la corde autour du cou. Il y a le temps nécessaire pour écrire un projet. Soyons prêts pour 2007. Lisons, réfléchissons, puis votons.
Oui, bonjour, c'est Raphaël de l'association Survie de Marseille pour une petite information militante. Samedi à 14h, Survie et quelques autres organisations appellent à un rassemblement en haut de la Canebière pour soutenir le peuple togolais en lutte et pour dénoncer la dictature france-africaine qui s'éternise au Togo. Voilà, donc tous les démocrates sont le bienvenu. Merci.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Van Til et Ramon Chao. Là-bas, si j'y suis, en Galice.
Flight number 2, arriving from New York.
Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, después de las imágenes que acaban de ver, a una persona cuidando de mi cuerpo, atrofiado, insensible y deforme, yo les pregunto qué significa para ustedes la libertad. Para mí, la libertad no es esto. Esto no es vida ni vivir dignamente.
Dans un instant, cet homme qui parle va mourir. Dans son lit, face à une petite caméra vidéo amateur, il s'adresse à la justice, aux autorités politiques et ecclésiastiques. Il explique pourquoi, juste à côté de son visage, il y a un plateau de métal avec dessus un verre posé qui contient un liquide comme de l'eau et une paille. Le liquide contient du cyanure. La paille, pour boire, parce que cet homme n'a pas l'usage de ses mains, ni de ses bras, ni de son corps. Tétraplégique. Depuis 30 ans. Il veut mourir dans la dignité. Il considère que c'est un droit. Il ne veut plus, dit-il, être une tête avec un corps mort. Il a demandé et convaincu ses amis, ses proches, de l'aider à mourir, à partir. Ce que lui interdit la loi, l'Église et même jusqu'à la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, qui est restée muette. Ramon San Pedro, car c'est lui, a ébranlé la conscience et l'inconscient de l'Espagne. Euthanasie, suicide assisté, au-delà d'un fait de société, comme on dit, ou d'un sujet d'émission, au-delà même d'un document exclusif, exceptionnel que constitue la bande vidéo que vous entendez, le départ de Ramon San Pedro est un symptôme de notre temps, un diagnostic, un basculement, et nous ramène à une question. À qui appartiennent nos vies? Qui a le droit de vie ou de mort sur nos vies et sur nos morts?
La première fois que je l'ai vu, quand il cumpleu 50 ans et 25 de cama.
Et la première fois que je l'ai vu, ça faisait 25 ans qu'il était dans son lit, et il avait 50 ans.
No sé, un homme en cama, pedir eutanasia, et a cara que tiña, porque era o que se lle veía, non? O corazón, o falar.
Ce qui m'intriguait de Ramon, c'est la figure qu'il avait, parce qu'il demandait l'euthanasie et ça cadrait pas avec sa figure, avec sa façon d'être.
Quand je lis le livre de Cartas desde el infierno, pues esa amiga pues decía mejor va, sale el libro, tenemos que ir junto de Ramon, porque ya tanto tiempo sin.
Quand son livre est sorti, Lettre depuis l'enfer, à ce moment-là, une amie à moi m'a dit, il faut absolument qu'on aille le voir, parce que ça fait longtemps déjà que ces lettres sont sorties, son livre est sorti, on n'est pas encore allé le voir.
Lettre depuis l'enfer, c'était quoi?
Cartas de Ramon.
Sont des lettres.
Et tiene algunos poemas muy bonitos.
Avec, sí. Quelques poèmes aussi, très beaux poèmes.
Él no quería ser poeta, pero era muy poeta.
Il ne voulait pas être poète, mais il était poète en réalité.
Pourquoi il ne voulait pas être poète?
No quería ser cursi. No le gustaba ese sufrimiento que él tenía de tener que estar allí preso y decir cosas bonitas, cosas bellas.
Il ne voulait pas sentir ridicule. Il ne voulait pas se sentir prisonnier dans son corps et puis dire des choses jolies, des choses pour lui qui étaient ridicules.
Solo quería escribir pues eso o mal que lo estaba pasando porque no quería estar así, porque no aceptaba estar así.
La seule chose qu'il voulait dire, c'était qu'il souffrait beaucoup, il voulait pas être comme ça, il voulait pas être enfermé dans sa paralysie, voilà ce qu'il voulait dire. Il voulait crier sa souffrance.
Pero realmente cuando abría la boca tenía poemas muy bonitos, o para mí, conmigo.
Mais en réalité, dès qu'il ouvrait la bouche, il avait des poèmes qui étaient très beaux. Pour moi, au moins, ils étaient très beaux, ces poèmes.
Cuando él caía como fruto maduro de árbol de la vida, dejádeme allí mismo donde él caía, para que me abrace o sol, e o vento e a lua, que a vida me devore chantada tras chantada.
Ramona, l'amour, le dernier amour de Ramon San Pedro. Ramon San Pedro a 20 ans, plonge et tombe et se casse le dos, il devient paralysé des membres, il ne devient plus qu'une tête, il n'est plus qu'une tête, un visage, et c'est tout, dans un lit. Il passe son temps à se cultiver, à lire, alors qu'il n'a pas l'usage de ses mains, ni de ses jambes, et à écrire. Il devient un poète, il publie des poèmes qui font l'unanimité par leur beauté, pas seulement par l'exploit que ça représente de la part d'un handicapé. Il écrit à ses amis, il publiera un ouvrage qui s'appelle « Lettre du fond de l'enfer » et surtout, petit à petit dans sa conscience, vient l'idée de mourir. Non pas de mourir, de partir, comme il dit, comme on pourrait le faire avec un médecin ami avec qui on s'arrangerait et puis qui ferait en douce comme ça la piqûre qu'il faut, le produit qui est nécessaire. Non, il veut le faire publiquement, ouvertement, avec les siens. Vu de loin, vu d'une soirée d'un dossier de télévision, ça peut paraître facile, réglable assez vite, selon qu'on a telle ou telle position a priori. Mais quand on s'approche des gens, de ceux qui ont participé au départ de Ramon, on est troublé, perturbé, on se pose un grand nombre de questions. Ramona, elle, est une ouvrière d'une usine de sardinerie, comme il y en a beaucoup sur la côte de la Galice. Elle faisait de l'animation dans une petite radio associative et elle a entendu parler un jour, elle a vu à la télévision Ramon San Pedro qui parlait de sa cause et de la cause de l'euthanasie et de sa volonté de mourir dans la dignité, de partir dans la dignité. Elle est tombée amoureuse de cet homme et elle est allée le voir. Elle raconte la première rencontre.
Il était dans son lit, mais le dos contre la porte, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas.
Il vivait seul? Comment il vivait?
Ramón, sí. No, con toda familia, tenía un montón de gente en la casa, tenía un hermano casado.
No, il vivait avec toute sa famille, il vivait avec son frère qui était marié, et puis trois ou quatre nietos, et le père aussi. Mm-hmm.
Bueno, pues Rosa entró, fue a saludarlo, que se llama Rosa, es amiga
de Rosa, qui est cette amie dont je vous parle, c'est,
saludarlo, dar los besos, yo quedé atrás.
Elle entre, elle l'embrasse, moi je suis restée derrière.
Et bueno, acércate, Monchiña me dice.
Non, Monchiña, approche-toi, Monchiña, c'est le nom qu'on me donne,
como
le diminutif
me gustó,
qu'on me donne.
Como me gustó eso, vi que era un señor abierto, no, porque yo iba con miedo, porque la imagen de televisión, o mejor, no era una persona muy abierta, aunque sí, tenía un poco de miedo.
J'avais un petit peu peur, j'avais une idée préconçue et cette idée de m'appeler Monchiña et de me demander où j'étais, ça m'a fait plaisir, ça m'a.
Resulta de que ese recibimiento me gustó y acerquéme.
Et cette réception, ça m'a plu et à ce moment-là, je me suis approchée de lui.
Dinje café, dinje de fumar.
Je lui ai donné du café, je lui ai donné une cigarette. Et à ce moment-là, lui, il me regardait, il était toujours à me regarder.
Sacamos fotos que se perdieron, por cierto.
Fait des photos qui se sont perdues d'ailleurs.
Ramona, à quoi il ressemblait physiquement? Est-ce que...
Para mí era un atleta.
Pour moi, c'était un athlète.
Pardon, pero era un atleta. No, bueno.
Un athlète couché.
Era un señor maravilloso.
C'était quelqu'un de merveilleux. Il avait un cœur extraordinaire.
Solo o que era, o que demostraban aquella cabeza, pues era un atleta. Era.
C'était un athlète, mais dans tous les sens du mot.
Era un ser cheo de vida.
C'était
pero quien no aceptaba su situación.
Et qui n'acceptait pas sa situation.
Yo comprendía. Paralytique.
Et moi, je le comprenais.
Primero que me preguntara a mí cuando estuviéramos en la charla esa.
La première chose qui m'a demandé quand on.
Si yo ayudaría a morir.
Quand on a commencé à parler, c'est de me demander si je voulais bien l'aider à mourir. À ce moment-là, moi, je lui ai dit que non.
Rotundamente que no.
Ah, c'est la première chose qu'il a demandé.
Sí, sí, sí. Siempre, por lo que él me decía casi siempre, y yo hacía la misma pregunta a toda la gente, no, porque normalmente la gente que iba junto de él.
D'après ce qu'il m'a dit, il posait la même question à tout le monde.
Entonces él hacía yo esa pregunta, pues eso, pues para saber a quién tenía allí o que ir hablando con esa gente, ¿no?
Et lui, il leur posait cette question pour savoir à qui il avait affaire exactement. Quelle sorte de gens c'était.
Est-ce que jusque-là, des gens lui avaient dit oui?
Sí, a mí también me dijo que sí. Lo que pasa es que nunca nos... supóñome que nunca le decía a nadie, esta persona, ayúdame, esta. No, él siempre dijo que tenía gente que sí le ayudaría.
Sí, él ha siempre dicho que había gente que le había dicho que sí, que le ayudaría. Solamente él no ha jamais dicho lesquels eran esos gente.
¿Es que vous étiez bien accueilli par sa famille?
Sí, sí. Sí, en un momento, sí.
Sí, sí, à ce moment-là. À ce moment-là, oui, j'étais bien accueilli.
Parce qu'en fait, sa famille s'opposait à sa demande d'euthanasie.
Según tengo entendido, eu, o único que s'opponía a la familia era o irmán. Tengo entendido, eu con Ramón.
D'après ce que j'ai compris, la seule personne qui s'opposait à l'euthanasie, c'était son frère.
Pero la familia de Ramón no estaba de acuerdo con nuestra relación.
Mais la famille de Ramón n'était pas d'accord avec nos relations.
Et punto.
Ramona, est-ce qu'on peut dire que vous étiez amoureuse ce jour-là? Vous êtes tombée amoureuse?
Eu, ya antes.
Avant déjà.
Seguro que, a mejor, por los meus fracasos que tiña, pues bueno, estaba aburrida, tiña yo un poco de coraje, os homes, porque normalmente parece que solo, me daba esa impresión a mí, que solo veñen, pues a eso, ¿no? Pues a tocarte.
C'est peut-être parce que j'ai eu plusieurs échecs aussi avec les hommes et j'ai souvent eu l'impression qu'on ne sert aux hommes que physiquement, qu'une femme ne leur sert que physiquement et justement.
Entonces Ramón era un amor puro.
Avec Ramón, il y avait une espèce d'amour absolument pur, absolument net, sans.
Yo sería capaz de vivir toda la vida con él. El resto de los días.
Je crois que j'aurais pu vivre toute ma vie avec lui.
Sin poñerle cornos, cuidado, eh.
Sans le rendre cocu, hein. J'aurais pu vivre avec lui complètement sans. D'une façon complètement pure.
Sans le tromper. C'est-à-dire que vous seriez condamné à la chasteté.
Bueno, chamelle así. Ah, sí, claro.
Mais vous aviez des enfants quand. Vous dites que vous avez des enfants.
J'ai
trois enfants.
Trois enfants. Donc, vous êtes tombée amoureuse de Ramón. Et qu'est-ce qui s'est passé là ensuite?
Encontré un número de teléfono, chamé, no, a mediodía, he quedado, me de llamar por la noite,
et à partir de ahí, todos los lui-même, il m'a dit qu'il m'appellerait le soir, et à partir de ce moment-là, tous les jours, nous sommes téléphonés.
Todos los días. Le baba llevo a él flores todos los viernes.
Je lui apportais des fleurs tous les vendredis.
Flores frescas todos los viernes.
J'apportais des fleurs fraîches tous les vendredis.
Vous parliez... De quoi vous parliez, de quoi?
Que... cosas íntimas. No te digo. No, bueno, cosas bonitas, cosas nosas.
De cosas a nous, de nos problemas.
¿Es que vous parlez de ses lectures, des auteurs qu'il avait lus, de ses références philosophiques?
Poco.
Poco.
Porque la verdad es que soy muy paleta.
Je suis quelqu'un de la campagne. C'était difficile de comprendre Ramón.
Non, esas cosas de filosofía, non? La forma que se expresaba.
Toutes les histoires de philosophie, la façon dont il s'exprimait lui-même sur la philosophie, tout ça, j'arrivais pas à le comprendre.
Et pourtant, lui, c'était aussi un garçon de la campagne.
Pero Ramón tuvo muchísimo tiempo, mi madre. Era intelectual, era un poeta, era un. Un pensador era una
c'était, Ramón c'était une personne très intelligente, c'était un poète, c'était un penseur, c'était un intellectuel, il a eu le temps de penser.
Era muy inteligente, Ramón.
Très, très intelligent.
Muy, muy inteligente. Yo entiendo que mucha gente no quería que él se marchara, ni que pediera eutanasia, que siguiera luchando, que hiciera otras cosas buenas, ¿no? Yo entiendo.
Comprends bien que les gens n'aient pas voulu le laisser partir, que ils auraient voulu qu'il continue à faire des choses, qu'il continue à écrire. Ça, je comprends bien.
Yo entiendo que él tenía cabeza para mucho. Para moito, para pelear moito, para luchar moito, pero non estaba cómodo co seu corpo, non, é que non estaba, tiña que ter unha persona
qu'il avait une intelligence suffisante pour faire énormément de choses, pour lutter énormément de temps, mais lui se sentait pas bien dans son corps, il se sentait très très malheureux dans son corps.
Ah, voilà des images.
Voilà des images de Ramón avec son lutrin. Il écrivait avec sa bouche.
Il était allongé.
Sí, estaba así, para este lado, para otro, o sentado, semi-sentado.
Il était comme ça, ou bien à moitié assis, comme ça.
Oui. Il vous parlait de la mort, souvent?
Non, parlábamos mucho de la muerte.
Non, on parlait pas souvent de la mort.
Parlábamos de sobrevivir, de vivir dignamente.
Surtout de vivre dans la dignité.
Et bueno, non había muerte, había marcha, una marcha.
Il y avait pas, on parlait pas de mort, on parlait de départ.
Marcharíase de viaje, como tantas gente.
Il disait qu'il partirait en voyage, comme des quantités de gens partent en voyage.
Entonces yo no tendría que votarlo. Hombre, votar de menos relativamente.
Et moi, il voulait pas que je le regrette.
Et que más?
Quoi d'autre?
Et que más?
Quoi d'autre?
Et de morte? Non, non, hay morte.
Non, non, y a pas de mort.
Bueno, no sé por qué, pero estoy llena de energía de este hombre, entonces pues por eso mejor no estoy a chormicar, porque mi madre...
C'est pas ce que j'aime, mais je crois que je suis pleine de l'énergie de cet homme, c'est pour ça que...
Todos necesitamos tener un hombro a quien contarle cosas, porque a quien le contaba las mías cosas era él.
On a tous besoin d'une épaule pour s'appuyer, pour raconter ses problèmes.
Todas las mías penas, las mías alegrías contaba ya a él. O faltar él...
Tous mes problèmes, toutes mes peines, toutes mes joies, je lui racontais tout.
Et
quand lui est parti,
sola,
je me suis trouvée assez seule, oui.
Pero bueno, siempre...
Mais
que digo, no? que me
c'est ce que je dis. Il m'a laissé tellement d'énergie en moi qu'il ne voulait pas que je sois triste.
Je
ne sais pas combien de temps ça, je l'aurai encore, mais je l'ai encore, cette énergie qu'il m'a laissée.
Si tu m'aimes, tue-moi. Ça paraît une question folle, une condition folle, et pourtant, c'est ce que Ramón San Pedro demande à Ramona. C'est ce qu'il demande à ses amis. Pourquoi ? Parce que la loi empêche qu'un homme mette fin à ses jours volontairement, au prétexte qu'il considère lui-même que sa vie est une souffrance, et c'était le cas de Ramón San Pedro, tétraplégique, qui considérait que son corps était un poids inutile, mort, quelque chose d'humiliant. Il y a des photos extraordinaires qui représentent, je crois que c'est en 1996, cet homme, Ramón San Pedro, qui se présente devant un tribunal. Ses amis l'ont habillé, l'ont aidé à s'habiller, il est sur un fauteuil roulant, et il vient demander à la justice le droit de mourir dans la dignité. Et la justice lui répond, la justice de son pays, lui répond non. Ce serait la même chose s'il était en France ou n'importe où, je pense, dans le monde, je connais pas toutes les législations. Mais bien au-delà, c'est ce que je vous disais, bien au-delà, c'est d'autres questions beaucoup plus profondes qui se posent. Et comment, avec qui mourir? Si Ramona l'aide, elle est coupable. Alors comment faire? Eh bien, Ramón San Pedro imagine un stratagème, c'est-à-dire que entre 11, 12, 13, on ne sait pas exactement le nombre, de ses amis et de ses proches vont participer à un processus. Chacun fera une séquence de ce processus qui conduira jusqu'à ce que ses amis et son amour, Ramona, appellent son départ.
Yo no lo hago muy fuerte,
¿eh? Yo solo le dije la primera vez.
Moi, j'ai seulement dit la première fois, le premier jour.
J'ai dit rotundamente que non ayudaría. ¿Por qué?
Le premier jour, je lui ai dit que j'allais pas l'aider.
Parce
que moi, je voulais, j'étais égoïste comme tout le monde. Je voulais pas le perdre. Et si s'en allait, j'allais le perdre. Alors, je voulais pas le perdre.
Acababa de conocer. Si se quería morrer, decía, si yo ayudo a morrer ahora ya, ya me quedo sin él. Egoísta, ¿no?
Je venais de le rencontrer et j'allais pas le perdre tout de suite. Je voulais pas qu'il s'en aille tout de suite.
Et
à partir de ce moment-là,
c'est
à ce moment-là que j'ai commencé à voir la réalité de sa vie à lui.
Pero que había que estar pendiente de él.
Il fallait absolument, 24 il fallait tout le temps, tout le temps qu'il y ait quelqu'un autour de lui. Il fallait tout le temps quelqu'un qui s'occupe de lui, jour et nuit, les 24 heures de la journée.
Alors, Ramona, à partir de quand vous avez mis ensemble le processus, disons, de son départ?
Il tignait sempre. Eu desde que o conheci, por lo visto, ele tinha-o sempre.
Ele a toujours eu ce dans la tête ce processus.
Cada tinha o seu papel.
Chacun avait son propre rôle dans l'affaire. Moi j'avais le mien.
O meu papel que, de que iba? Sí. Pues de sua mulher, de sua dona, de estar con ele.
Moi mon rôle c'était d'être sa femme, d'être avec lui.
Eu fui a sua mulher hasta.
J'ai été sa femme jusqu'à.
Hasta uma hora.
Jusqu'à une heure avant sa mort.
À partir d'aí.
Et à partir de ce moment-là.
Oui, te chavais, comment se chama? Estás qui hach.
À partir de ce moment-là, j'ai regardé la télévision.
Que? Sempre fui a sua mulher desde que fui ali. Quizás antes, por.
Por j'ai toujours été sa femme, depuis le premier jour où je suis allée là-bas.
As nossas mentes, non sei se é psicologia, si que carajo, estamos. Non creo nas bruxas, a verdade, nem nessas tonterias.
C'est pas dans notre.
Pero quizás ya nos teníamos que haber conocido
antes. Je crois
pas aux sorcières,
mais je crois qu'on aurait dû se connaître avant.
Et sua mulher, sí. Hasta qué momento? Eu queria que fuera hasta siempre, pero no quiso ver.
Jusqu'à quel moment? Moi, j'aurais voulu que ce soit toujours, mais j'étais égoïste à ce moment-là.
Entendía su situación, era muy, muy clara.
Je comprenais sa situation.
Non debemos de coller nunca nada que non sea nosso.
On ne doit jamais prendre quelque chose qui n'est pas à nous. On ne doit pas enfermer les gens, les choses.
Où est-ce que vous en êtes avec la justice? Est-ce que vous êtes suspecté, vous, Ramona?
Pero no hay cojones una justicia. Sí, no lo digas. No. Otra cosa. pero yo soy así de clara. Y no hay cojones en...
Je voudrais pas être grossière, mais je crois que la justice n'a pas de couilles.
Pas de coronet, sans cesse que ça veut dire en français.
Vivre est un droit, pas une obligation, affirmait Ramon San Pedro. Qui a droit de vie et de mort sur nos vies et sur nos morts? Il semble que la question ait été réglée. Eh ben, pas du tout. C'est une idée. L'idée que notre vie appartient à Dieu et qu'il faut s'en remettre à la divine providence, c'est une idée. L'idée que nos vies appartiennent à notre communauté, à notre famille, à notre État, à notre patrie, tout ça, ce sont autant d'idées que Ramon San Pedro remet en cause, non pas comme un philosophe comme ça, d'une exabrupto, comme le font certains mangeurs de papier imprimé, mais parce que c'est sa vie propre dont il est question, c'est son corps à lui dont il est question, et c'est sa volonté à lui que la justice, l'Église, une partie de la morale l'empêche de faire. C'était Ramona qu'on entendait, sa femme, puisqu'elle le dit, alors voilà, c'est sa femme, c'est son amour. Et voilà quelqu'un d'autre qui est Pépé. Pépé, c'est un voisin, un ami de Ramon dans ce petit village, petit patelin de Galice, sans beaucoup de caractère, le long d'une route comme ça, qui s'appelle le Chugno, et où habitait Ramon San Pedro, dans une maison avec sa famille. Donc Pépé est un voisin de Ramon et il nous raconte ce qu'était le désir de Ramon San Pedro quant à sa fin, quant à son départ.
Su gran ilusión fue siempre morir en su pueblo, en su casa y en su cama.
Son désir a toujours été de mourir dans son village, dans sa maison et dans son propre lit.
cogido de la mano de su padre,
donnant la main à son père,
de su cuñada,
a sa belle-sœur aussi,
de toda su familia,
y a toute sa famille, et aussi a tous ses amis. Et en écoutant une chanson, quelle était sa chanson?
Qu'est-ce que c'est cette chanson?
Tannhauser.
Tannhauser de Wagner.
Il voulait mourir en vous tenant la main à tous, en entendant Tannhauser
de Wagner.
De la légalité.
Mais il voulait faire ça et en toute légalité.
Entonces, ante la imposibilidad de la legalización, porque los políticos, los intereses políticos, eclesiásticos y de toda índole...
Imposibilité politique, imposibilité religieuse, sociale, de toutes sortes.
Decide su traslado a Boiro.
Es a ce moment-là qu'il a décidé de se faire transporter à Boiro.
Para no implicar a su familia...
pour que sa famille ne soit pas impliquée dans sa mort.
Et entonces, bueno, pues nada, se toma un tiempo prudencial, se prepara las cosas.
C'est à ce moment-là qu'il a commencé à préparer tout très calmement et qu'il a pris sa décision.
En aquel momento, creo que nadie se pensó que estuviese tan cerca el momento de la determinación final, ¿no?
Je crois qu'à ce moment-là, personne ne pensait que la décision finale de Ramón était si proche.
Él se murió el 12 de enero, y el 11 de enero a las 11 de la noche yo estuve hablando con él por teléfono, y habíamos quedado en que el próximo domingo iba a ir yo y mi esposa à visitarlo.
La veille, le 11 janvier, je lui ai téléphoné le soir à 11h. Il est mort le lendemain et nous avions projeté, ma femme et moi, d'aller le voir le dimanche suivant pour être ensemble, pour passer la journée ensemble.
Il est mort dans la nuit du dimanche au lundi?
Si, dans la madrugada del lunes.
Il est mort à l'aube du lundi, oui.
Un autre ami de Ramón San Pedro, c'est Loïs. Loïs nous raconte ce qu'a été pour les amis de Ramón, les affres d'avoir à choisir. C'est pas si facile, c'est pas rien de participer, même sur un petit bout, même pour un peu, même préparer le verre, préparer la paille, préparer le plateau, préparer, vous allez l'entendre et le voir, la caméra, puisque Ramón San Pedro voulait que sa mort fût filmée. C'est pas rien de le faire, vraiment. C'est ce que ses amis ont fait, donc 11, 12, 13, on sait pas exactement combien, ont participé à ça. Et chacun avait une clé de cet appartement que Ramón San Pedro avait loué dans une ville voisine. Il avait demandé à partir de chez lui pour pas compromettre sa famille, dans la mesure où tout le monde n'était pas d'accord chez lui avec son choix. Si certaines de ses sœurs comprenaient, son père avait fini par se ranger douloureusement à sa décision, et l'un de ses frères s'est toujours opposé. Il s'est toujours opposé à au choix de son frère, pour des raisons aussi bien probablement de conviction, morale, tout à fait respectable, religieuse, tout à fait respectable, mais aussi avec l'idée que si tu nous quittes, c'est que tu nous aimes pas, tu nous aimes plus, et on s'est mal occupé de toi. Et c'est pas simple. De loin, c'est simple, et plus on s'approche de la vie des gens, de la vie et de leur avis et de leurs problèmes, plus c'est compliqué. Voilà ce que nous raconte Loïs, donc un très très proche ami de Ramón San Pedro.
Yo lo que puedo decir es que Ramón, él exclusivamente controlaba o controló todo el proceso de ayuda.
Ce que je peux dire, c'est que Ramón, lui, a contrôlé tout le processus de sa propre mort.
C'est lui qui l'avait imaginé. C'est lui qui l'avait imaginé. Il a imaginé son plan, ou bien il vous en a parlé?
Non. Et préparó él el plan.
C'est lui qui a préparé le plan.
Lo que se puede decir es que a unas personas les dijo, tráeme esto, tráeme una cinta, llévame tal cosa, otra.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a dit à certains, apporte-moi ça, donne-moi ci, trouve-moi cela.
Sí, pero no podemos decir, yo por ejemplo, no puedo certificar en qué modo y de qué medida alguno de los amigos que nos conocemos participó.
Mais par exemple, moi, je peux pas dire dans quelle mesure et de quelle manière lequel de ses amis l'a aidé.
Bien sûr, ça, on se doute bien que tu le sais pas. Et puis, si tu le savais, et on comprendrait tout à fait que tu ne nous le dises pas. Mais est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les étapes du procédé sans nous dire qui a fait quoi? Parce que on sent bien qu'il a voulu et que vous voulez que la chose soit publique, que la chose soit connue. Il a voulu donner à sa mort un retentissement, un sens.
Bueno, es decir. Hay como dos partes. Una es lo que corresponde a la organización del hecho de la muerte.
Il y a deux choses. Il y a la première qui correspond à l'organisation du fait même de la mort, quoi.
Y otra parte es lo que corresponde a la publicitación del hecho de la muerte.
Et la deuxième chose, c'est ce qui correspond au fait d'avoir rendu public cette mort.
En la parte de la publicitación, Ramón hace una grabación de vídeo y la intención de él que manifiesta es para que eso salga a luz y que todo el mundo se entere de que es él quien toma la decisión y por qué la toma.
Oui, dans le fait que ça a été rendu public, il y a le fait que Ramón a été filmé en train de mourir. Et ça, il l'a voulu pour qu'on sache pourquoi il était mort et qu'il avait bien voulu mourir.
C'est ça. Et pendant son agonie, si j'ai bien compris, pendant son agonie, il a parlé à la caméra.
Si, si, habló a la cámara.
Qu'est-ce qu'il dit à la caméra?
En la primera parte que graba, esta de la limpieza y atención corporal, le vale un poco para empezar diciendo, esto es un cerebro esclavo o atado a un cuerpo muerto.
Oui, et toute cette partie où on voit justement tous les soins qu'ils sont obligés d'apporter à son corps, en particulier pour la propreté, avait pour but et pour sens de dire, voilà la vie d'un cerveau attaché à un corps mort.
Et después de su intervención dirigida abiertamente a los jueces, es cuando bebe el cianuro.
Et après l'intervention où il s'adresse directement au juge, vient la scène où il avale le cianure.
Monsieur le juge, autorité politique ecclésiastique, après les images que vous venez de voir, une personne prenant forme de mon corps atrophié, insensible, difforme, je vous demande, c'est quoi la liberté pour vous? Pour moi, la liberté, ce n'est pas ça. Ce n'est ni une vie, ni vivre avec dignité. Comme quelques juges et ceux qui aiment la liberté et la vie, je pense que vivre est un droit, pas une obligation. J'étais obligé de supporter cette pénible circonstance pendant 29 ans, 4 mois et quelques jours. Je ne veux plus continuer comme ça. Je ne voudrais pas mourir de faim et de soif. C'est à quoi vous me forcez. C'est donc vous qui m'obligez à faire cela en ce moment. Ça va faire 5 ans que j'ai fait appel à la justice. J'ai demandé à la justice que mes actes n'aient des conséquences pénales pour personne. Mais au bout de 5 ans, tout cela me paraît grotesque. Et j'ai décidé de terminer d'une manière rationnelle, humaine et digne. Comme vous pouvez voir, j'ai à côté de moi un verre contenant de l'eau et une dose de cyanure de potassium. Quand je l'aurai bu, j'aurais renoncé à la chose la plus intime que j'ai, mon corps. Et en plus, je me libère de l'humiliation d'être une tête vivante attachée à un corps mort. Cet acte de liberté, vous l'appelez suicide assisté ou collaboration au suicide. Je l'appelle aide nécessaire pour être maître et souverain de mon corps. Et de la seule chose qui réellement m'appartient, c'est-à-dire le corps, et ce que cela implique, la conscience et la vie. Vous pouvez punir celle qui m'a aimé et qui était cohérente avec cet amour, c'est-à-dire en m'aimant comme si c'était elle-même. Bien sûr, pour cela, il lui a fallu vaincre la peur d'être puni de votre vengeance. C'est là son seul délit. En plus d'accepter le devoir moral d'accomplir ce geste, c'est lui qui lui fait le plus de mal. Oui, vous pouvez punir, mais vous savez que c'est une simple vengeance légale, mais pas légitime. Oui, vous pouvez punir, mais vous savez que c'est une injustice, puisque vous savez que le seul responsable de mes actes, c'est moi, et moi seul. Si malgré toutes mes raisons, vous décidez de donner un exemple, je vous conseille et vous prie de couper à la personne bras et jambes les seules choses dont j'ai eu besoin. L'acte et l'intention viennent de moi. Que ce soit clair, monsieur le juge, que ce n'est pas la personne qui m'a aidé, qui m'a apporté le cyanure, mais je l'ai obtenu à travers une chaîne de gens solidaires.
Merci con mucha serenidad.
Avec beaucoup de sérénité.
Y incluso esboza una sonrisa tímida.
Avec un petit sourire timide.
Y dice en gallego, más o menos, en gallego, ya ven, es decir, ya viene.
Et il dit en galicien, plus ou moins, ya ven, je viens.
Y estos son como minuto y medio o así, y después ya empieza la agonía.
Ça dure une minute trente à peu près, et alors commence l'agonie.
Él caía como fruto maduro de árbol de la vida, deixádeme allí mismo donde él caía, para que me abrace o sol, e o vento e a lua, que a vida me devore chantada tras chantada.
Ramona nous a raconté comment, dans la porte de la chambre, derrière la porte, il y avait un portrait géant de Pablo Neruda, le poète Pablo Neruda, pour qui Ramón San Pedro avait une vénération. Et maintenant, c'est Ramona qui vénère Ramón San Pedro en lui rendant hommage à travers ce poème Canuli. Ramona.
Est-ce que vous avez parlé à vos enfants?
De qué? De la mort de Ramón?
De cette histoire, oui, de la mort de Ramón.
Bueno, las niñas suyas mayores ya son grandes, ya las entienden, pero con pequeño que estaba un poco enamorado de Ramón, que era su pai para él.
Avec mes filles aînées, oui, bien sûr, j'en ai parlé, elles ont l'âge de pouvoir comprendre, mais avec mon fils le plus jeune, c'était difficile parce que Ramón le considérait un petit peu comme son père et
tinha
il était
tres,
amoureux, il l'aimait beaucoup, il avait 3 ans en ce moment-là.
Entonces para él era su pai, et entonces como vivía en Boiro, cuando a vivir en Boiro íbamos más a menudo junto de él, estábamos más con él tal, pues iba a votar de menos, ¿no? Entonces tuve que un poco decir a su marcha y tal. Y ahora cuando le preguntan por Ramón, Ramón está en el cielo.
Au moment où Ramón est arrivé à Boiro, à la fin,
c'était La Basse J'y suis, un reportage en Galice de Ramón Chao et Daniel Mermet, à voir dans la continuité de cette émission le film d'Alejandro Amenábar, Mar Adentro. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, une réalisation d'Antoine Chao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello, chef du répondeur Christophe Imbert, le numéro du répondeur de La Basse J'y suis, 01 56 40 37 37.